Chapitre 4 La pensée. Les fables ne sont pas, depuis deux siècles, devenues le bréviaire des Français, petits et grands, enfants et vieillards, parce qu'elles sont des narrations exquises d'un art inimitable et d'une perfection unique. Nous ne sommes pas, en masse, assez artistes pour nous laisser, sans autre profit, ravir à ces séductions littéraires. Pour le plus grand nombre, c'est la morale qui ressort de ces petits contes, morale formulée ou sous-entendue, qui en fait le plus haut prix. Les hommes mûrs, éprouvés par la vie, y retrouvent, sous une forme satirique ou résignée, les conclusions attristées qu'ils tirent de leur propre expérience et les conseils de prudence et de modération qu'ils prodiguent eux-mêmes à ceux qui les suivent. Les enfants y apprennent, comme en un catéchisme laïque, tout en s'amusant avec les petites bêtes, des axiomes de bon sens qui s'implantent pour la vie dans leur tendre cervelle. Tous y cherchent et y trouvent ce que notre race, active et loyale, a toujours demandé à ses poètes, avant toute exaltation lyrique, un enseignement moral et des maximes pratiques. De temps immémorial, nous avons eu la passion des proverbes, des pensées expérimentales condensées en une phrase courte et bien sonnante, en un vers franchement rythmé, vif et preste suivant le cas, ou très plein et très solide. Les interminables allégories qui enthousiasmaient les lettrés du XIVe et du XVe siècle, le roman de la Rose, les ballades d'Eustache Deschamps, les dialogues d'Alain Chartier durent leur succès à la multitude d'axiomes qu'on en pouvait détacher. Il est encore aujourd'hui beaucoup d'honnêtes gens pour lesquels les œuvres de Corneille et de Boileau sont avant tout des recueils de vers bien frappés, où l'on trouve un assortiment complet de formules héroïques et de recettes littéraires suffisant à tous les besoins d'un Français cultivé. Il y a donc une morale des fables. Si notre poète, insouciant et léger, a résumé en ses heures sérieuses ce qu'il pensait de la nature, de la société, de la politique, de la vie et de la mort, c'est là qu'il l'a pu faire. Nous pouvons ajouter, c'est là qu'il l'a fait. L'intention ne lui en est peut-être pas venue du premier coup, mais peu à peu, le désir s'en est précisé. On en peut suivre la progression dans les préfaces et dans les fables préfaces où cette idée se forme et prend corps. En 1668, en présentant ses premiers livres au dauphin, « L'apparence en est puérile, dit-il, je le confesse, mais les puérilités servent d'enveloppe à des vérités importantes. » Lorsque l'œuvre est terminée, c'est d'un autre ton qu'il l'offre au duc de Bourgogne. Les fables embrassent toutes sortes d'événements et de caractères. Ces mensonges sont proprement une manière d'histoire où on ne flatte personne. Ce ne sont pas choses de peu d'importance que ces sujets. Les animaux sont les précepteurs des hommes dans mon ouvrage. Le poète a donc pleine conscience du double rôle qu'il assume et qu'il veut remplir. C'est un observateur sincère et un moraliste réfléchi. Il croit sans doute qu'il faut plaire avant tout et que les hommes sont de grands enfants auxquels il faut sucrer la vérité pour la leur faire avaler par petites gorgées. Il ne cherchera donc jamais à présenter systématiquement cette morale, non plus qu'à l'exposer méthodiquement, pour en constituer un ensemble de doctrines. Comme son ami Montaigne, auquel il ressemble tant, il pense probablement que les idées nouvelles et hardies font d'autant mieux leur chemin qu'elles n'opposent pas une masse compacte aux préjugés hostiles, mais qu'elles agissent plus isolément armées à la légère, en tirailleuses. S'il ne le pense pas, il agit tout comme, par tempérament et par habitude. En tout cas, comme Montaigne, Il ne dit rien qui n'ait une intention philosophique. Il ne tire pas une flèche qui n'ait son but. Jean-Jacques Rousseau et Lamartine nous semblent, à vrai dire, aussi injustes qu'aveugles lorsqu'ils s'indignent de ne point trouver dans le fabuliste, leur prédécesseur et leur précurseur, un cours complet et raisonné de morale dogmatique, et lorsqu'ils l'accusent d'être un panégyriste convaincu et cynique de l'égoïsme et de la servilité. Ils oublient en premier lieu l'époque et les circonstances dans lesquelles parurent les fables. Ils ont négligé ensuite de relire avec attention les pages qu'ils incriminent, ou, s'ils les ont relues, ils ne les ont point comprises. Les sonorités éloquentes des vastes phrases puissamment déclamées ou des longues tirades voluptueusement déroulées retentissaient encore trop sans doute en leurs oreilles pour qu'ils pussent, ces jours-là, entendre la voix timide et fine d'un vieil ami, non moins sensible qu'eux, pourtant, aux joies champêtres et aux douceurs de la rêverie amoureuse. Quoi qu'il en soit, disons-le franchement, ne faut-il pas être bien distrait ou bien prévenu pour prendre au pied de la lettre le texte de la cigale et la fourmi, du loup et l'agneau, de cent autres récits dont la morale n'est pas moins visible pour n'être pas affichée sur un écriteau. Ne faut-il pas être bien peu français ou bien peu gaulois pour ne pas saisir la constante ironie, douce ou pathétique, qui donne à ces petites comédies ou petits drames leur vraie signification? Comment se fait-il que ces grands penseurs, troublés par leurs habitudes romanesques et pompeuses, se soient montrés ici moins perspicaces que le dernier des écoliers? Lisez à un enfant la cigale et la fourmi, le loup et l'agneau. À moins qu'un sot magistère ne lui ait d'avance gâté le jugement, pour qui éprouvera-t-il une vive et rapide pitié? Pour qui son petit cœur battra-t-il? Pour la pauvre cigale contre la vilaine fourmi, pour l'innocent agneau contre le méchant loup. C'est par l'impression, non par l'explication, en poète et en artiste, que le fabuliste touche et instruit. Que la formule « l'o mutos d'Eloi oti » soit plus ou moins bien rattachée au récit, elle est souvent formale, peu importe, c'est dans le récit même que réside l'enseignement. Or, 9 fois sur 10, ce récit est si nettement suggestif, il dégage si clairement une sympathie bienveillante pour les humbles et les opprimés, un mépris raisonné et grandissant pour les vaniteux, les trompeurs, les oppresseurs. Il exhale d'un bout à l'autre un sentiment si sincère de justice, d'indulgence, de tendresse, qu'on éprouve en le suivant, comme devant un spectacle instructif de la vie même, une émotion morale pénétrante et durable, très supérieure à celle que peut donner aucun aphorisme abstrait, si magnifiquement formulé qu'il puisse être. Le meunier, son fils et l'âne n'ont-ils pas affermi plus de gens contre la médisance et les commérages que tous les traités techniques sur la volonté? Lorsque la morale politique du monde contemporain a été de nouveau troublée par l'audacieuse affirmation d'un monstrueux axiome « la force prime le droit », toute la France a répondu, d'une voix unanime, qu'elle connaissait déjà cette constatation odieuse de la brutalité du fait et que son poète favori, son éducateur, son conseiller, avait déjà protesté par le drame pathétique du loup et l'agneau contre l'infamie de cette maxime ironiquement inscrite dans le prologue « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Personne chez nous n'avait donc pris pour un précepte la constatation attristée d'une réalité odieuse. Si la pensée de La Fontaine se dégage ainsi, le plus souvent, de l'émotion directement communiquée par le récit, il lui arrive quelquefois aussi de la développer en hors d'œuvre, dans les adages, commentaires, digression dont il l'accompagne. Il ne serait pas latin, il ne serait pas français, Dieu sait s'il le fut et à quel degré, si de temps à autre il ne s'abandonnait au plaisir de la condenser en formules proverbiales ou de la répandre en tirades éloquentes. On a tenté souvent, Saint-Marc, Girardin, Taine et bien d'autres, de résumer par des classifications délicates, des analyses rigoureuses, des synthèses hasardées, cette pensée instable et multiple, qui passant d'un objet à l'autre avec une extraordinaire rapidité, ne s'y arrête jamais qu'un moment. Certains penseurs, lourds et graves, se refusent à croire qu'avec cette désinvolture aimable et cet inaltérable enjouement, un homme puisse rien dire de sérieux ni d'original. Par esprit de réaction, en revanche, des admirateurs enthousiastes et excessifs ont voulu retrouver dans le bonhomme un philosophe armé de toutes pièces, un savant encyclopédique, un révolutionnaire, un socialiste. L'étrange Nicolardo a poussé plus loin encore. Il a reconnu en lui le successeur incontestable des prophètes bibliques, le dépositaire de la pensée divine. Nous ne voudrions pas, imprudent ami, écraser avec de si gros pavés un brave écrivain qui ne fut en réalité qu'un amateur d'idées, comme l'autre était un amateur de jardin. Néanmoins, si l'on se reporte aux circonstances et à l'entourage, si l'on se rappelle quel savant et formidable échafaudage de conventions sociales et intellectuelles entourait alors et emprisonnait les esprits, on lui rendra justice. Les esprits impartiaux s'étonneront qu'en plein triomphe de l'absolutisme politique sous Louis XIV, de l'absolutisme littéraire sous Nicolas Boileau, de l'absolutisme philosophique et religieux après Descartes et sous Bossuet, un petit faiseur de vers, échappant comme le moucheron à toutes les griffes puissantes, par l'humilité de sa situation et la modestie de ses écrits, est conservé vis-à-vis de toutes gens et de toutes choses une pareille liberté de jugement. Ils admireront surtout comment il a su, sans en avoir l'air, jeter en circulation une quantité d'idées justes ou hardies, avec une habileté si insinuante et si bien calculée, que s'échappant vite du milieu où elles avaient été jetées, elles allaient se répandre dans toutes les classes de la nation, tandis que les œuvres des plus grands contemporains étaient condamnées, par leur gravité même et par leur perfection soutenue, à ne pas sortir du cercle étroit de la noblesse et de la bourgeoisie. La majesté royale, cette majesté devant laquelle tous tremblent et s'agenouillent, lui le premier, qu'en pense-t-il dans son fort intérieur? Que murmure-t-il entre ses dents lorsqu'il s'est relevé et qu'il s'éloigne? Rien d'irrégulier tout d'abord. Dans les premiers livres, dédiés aux dauphins, les allusions sont rares et plutôt flatteuses. On y voit déjà sans doute Sire Lion, s'adjugeant, avec une hypocrisie brutale, les parts de tous ses associés, soutenant contre le moucheron une lutte ridicule, obligé de recourir à l'humiliante assistance d'un rat et se laissant couper les griffes par une maîtresse. Mais en général, dans le lion abattu par l'homme, dans le lion s'en allant en guerre, dans l'âne vêtu de la peau du lion, et dans le pâtre et le lion et le chasseur, il se présente sous ses beaux côtés, dans sa force hautaine, et c'est avec la résignation fière d'un héros antique qu'il agonise, languissant, triste et morne, sous le coup de pied de l'âne. Jupiter aussi, cette autre image du roi, se montre douce et conciliante, sauf le jour où il envoie aux grenouilles, las de démocratie, un roi qui se remue. La seconde partie est dédiée à Madame de Montespan. Le fabuliste se croit suffisamment couvert par cette protection. Il débute cette fois audacieusement par la satire la plus mordante de l'absolutisme, les animaux malades de la peste. Et comme il est en train, il continue par la cour du lion, le lion, le loup et le renard, les obsèques de la lionne, que Taine a mis en parallèle avec les pages de Saint-Simon sur la mort de Madame, les deux perroquets, le roi et son fils. Ces leçons, en apparence, visent les courtisans, mais elles atteignent plus haut. Quant aux gens même de la cour, c'est pain béni pour le rusé compère de les dauber en toute occasion à leurs propres applaudissements, car chacun suit avec joie le trait qui va frapper son voisin, mais ne sent pas celui qui l'atteint. L'esprit frondeur de Jean de Mingue, de Rabelais, de Dubellay, de Mathurin Régnier, ressuscite enfin pour railler les vices et les ridicules de Versailles. Il n'a plus le gros rire sur les lèvres, il n'a pas de fouet cinglant à la main, mais la finesse est telle de son persiflage et de sa raillerie qu'elle ne laisse, même au plus sot, aucun prétexte à s'indigner. La flèche est si aiguë qu'elle pénètre partout, si délicate qu'on n'en souffre point, si barbelée qu'elle ne sort plus. Dès lors, tous les Français lettrés, et bientôt presque tous les Français, vont posséder dès l'enfance, au sujet de la noblesse, des idées fort nettes et très peu bienveillantes. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la mouche a passé, le moucheron demeure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des souffrances des grands. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre, etc., etc. Les historiens de la Révolution ne comptent point, que je sache, d'ordinaire La Fontaine parmi ses précurseurs. Peut-être ont-ils tort. De tels axiomes, fixés depuis un siècle dans les cerveaux populaires, ont contribué aussi efficacement que les arguments des philosophes à renverser l'édifice social. Le clergé et la magistrature ne sont guère plus épargnés que la cour, ni dans les fables, ni dans les contes. Ici, suivant la tradition gauloise, les curés et les moines, hypocrites, gourmands, paillards, jouent les mêmes rôles que dans les fabliaux, et le juge Anselme, sanguinaire et grave, vend lestement son honneur à un mort très lipu, très hideux, très vilain, dont il devient le Ganymède. Là, ce sont les frelons et les mouches à miel, le loup plaidant contre le renard, l'âne portant des reliques, l'huître et les plaideurs, toute comédie du palais dans laquelle nous n'apprenons guère ni l'admiration de l'organisation judiciaire, ni le respect de la chose jugée. En revanche, nous y sentons l'amour sincère de la justice et la naïve passion de l'équité. Le clergé séculier est représenté par Messire Jean Chouard, qui s'en va gaiement au cimetière, couvant des yeux son mort, fondant, sur lui, l'achat d'une feuillette de bon vin et de cotillons neufs pour sa nièce et sa chambrière. Le clergé régulier reçoit son compte dans le rat qui s'est retiré du monde. La bourgeoisie, avare et mesquine comme de raison, y passe à son tour, et le populaire, inconstant, ignorant, ingrat, n'y est pas épargné non plus. Le fabuliste constate donc dans la société, à tous les degrés, comme un satirique et comme un prédicateur, des ridicules et des vices, des fautes et des crimes, toutes sortes de vilenies qui attristent les honnêtes gens, le succès des fripons et les misères des humbles. Ce n'est point, cependant, un satirique, puisqu'il ne s'indigne point. C'est encore moins un prédicateur, puisqu'il n'a pas de solution dogmatique ni de consolation supérieure à présenter. Ce n'est qu'un philosophe pratique, instruit par l'expérience. Il accepte, comme les 9/10 des hommes, les choses telles qu'elles sont, parce qu'il ne peut faire autrement. Mais il ne les accepte pas sans réflexion et sans protestation. Il se résigne à ce qu'il ne peut empêcher, mais après avoir dit son mot, justement et franchement. Il jouit d'ailleurs d'une trop bonne santé, physique et intellectuelle. Il est trop bien équilibré, trop sensible et trop bon, pour que cette résignation ironique le mène à l'indifférence ou au pessimisme. Le monde est ce qu'il est, nous ne pouvons le changer, mais puisque nous y devons vivre, tâchons d'y vivre le mieux possible, et pour nous, et pour les autres. Sa doctrine sur ce point ne diffère pas de celle de tous les grands écrivains français de la Renaissance et du XVIIe siècle. Il croit avant tout à la responsabilité de l'homme et à sa libre volonté. Il ne voit le remède à ces misères fatales que dans le travail, la fraternité, le dévouement. Aide-toi, le ciel t'aidera. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. La faute vient de nous aussi bien que du sort. Il se faut entraider, c'est la loi de la nature. Il ne se faut jamais moquer des misérables, etc., etc. Que de dictons semblables, actifs et fortifiants, font dès la petite enfance partie de notre bagage moral. Sa conception des rapports de l'homme avec la divinité, simple et pratique, est également conforme à la tradition nationale. C'est celle qu'on retrouve, toujours vivante et féconde, à toutes les époques de notre histoire, au fond de nos croyances religieuses ou philosophiques, celle que n'ont pu réduire ni transformer aucun dogme ni aucune doctrine. L'homme, libre et responsable, vis-à-vis d'une loi égale pour tous. Comme Rabelais et Voltaire, comme tous les écrivains d'action, La Fontaine est spiritualiste et déiste, sans chercher plus qu'eux, par des raisonnements en forme et des combinaisons verbales, à établir l'accord théorique entre deux termes, dont chacun lui paraît en soi évident et irréfutable. Quant à cette loi éternelle, il la croit bonne, et quelques noms qu'on donne à la puissance qu'il applique, nature, Dieu, Providence, il est certain de son équité bienveillante. Ses prétentions et ses espérances de connaître ne vont pas au-delà. Dieu sait bien ce qu'il fit, et je n'en sais pas plus. Il est même si convaincu qu'il n'en peut rien savoir, qu'il n'est pas éloigné, comme les positivistes, de ranger toutes les formes historiques de la divinité dans la catégorie de l'idéal. L'homme ignorait les dieux qu'il n'apprend qu'au besoin. Ce n'est pas sur ce point seulement qu'il pressent déjà les idées de certaines philosophies modernes. Son instinct, naïf et populaire, lui donne le sentiment constant de la solidarité de l'homme avec les autres êtres et lui révèle, par la sympathie, tous les liens qui nous rattachent à la vie universelle. On ne saurait un instant, sans blasphème, mettre en parallèle les âmes graves et fortes de Descartes et de Pascal avec l'âme légère de La Fontaine. N'est-il pas singulier, néanmoins, que parmi les rares esprits indépendants qui protestèrent avec réflexion contre les austérités étroites du système cartésien et de la doctrine janséniste, le plus simplement hardi, le plus sincèrement éloquent, ait été le fabuliste. Il avait trop vécu de la vie réelle. Il avait trop participé à celle des êtres incultes, enfants et paysans, à celle des êtres inférieurs, si voisins des incultes, les animaux. Il avait trop senti combien les choses de la nature agissent sur l'âme pour ne pas sourire de toutes ces séparations factices que la parole impuissante de l'école ou de la chair s'efforce de dresser entre le corps et l'âme, entre les hommes et le reste des créatures. en niant l'âme des bêtes, en les traitant de machines, Descartes l'avait blessé à vif dans ses convictions les plus chères. Aussi ne perd-il pas une occasion de revenir sur ce sujet, obstinément, longuement, avec une vivacité de polémique et une abondance de développement qui ne sont point dans ses habitudes. Tout ce qu'il a de verve, d'observation, de lecture, de science, de logique, il l'emploie à défendre ses petits amis contre le grand philosophe. Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu chez les païens et qui tient le milieu entre l'homme et l'esprit comme entre l'huître et l'homme, le tient-il de nos gens, franches bêtes de somme? Il cherchera donc à établir, avant les savants modernes, l'échelle ininterrompue des êtres animés et inanimés dans la création, à prouver l'intelligence des quadrupèdes et des volatiles, celle du cerf qui se défend par 100 stratagèmes dignes des plus grands chefs, celle de l'hirondelle, de la perdrix, du castor, de la fourmi, etc. Ses conclusions, d'ailleurs, sur cette question comme sur les autres, restent toujours les mêmes, des conclusions scientifiques et positivistes. L'impossibilité pour l'esprit humain d'aller au-delà de certaines limites, la nécessité de s'en tenir à la constatation et à l'étude des faits qu'il peut atteindre sans prétendre à les concilier, la renonciation aux solutions métaphysiques. Quant au grand secret, on ne l'apprend qu'au sein de la divinité, et s'il faut en parler avec sincérité, Descartes l'ignorait encore. Nous et lui, là-dessus, nous sommes tous égaux. C'est plus d'une fois qu'il avoue ainsi son ignorance touchant la nature de la divinité. Mais quelle qu'elle soit, il porte naïvement et obstinément en lui cette foi rassurante qu'elle ne saurait être qu'intelligente et indulgente. Il ne la redoute ni avant ni après sa conversion. Il accepte l'idée de la mort avec la tranquillité du sage antique. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et qu'on fît son paquet. On pourrait retrouver là l'influence de Lucrèce. Il serait intéressant de rechercher à ce propos jusqu'à quel point l'admiration de l'Antiquité a pu contribuer à la formation de ses idées et de ses sentiments sur la littérature et sur les arts. Sur ces sujets qui le touchaient de si près, La Fontaine, en plus d'une occasion, a développé ses opinions avec une indépendance et une largeur de vue qui le mettent aussi hors de pair. Sa sensibilité et sa sincérité ont suffi à lui donner des lumières plus vives que toutes les théories contemporaines. En tout et partout, le bonhomme raisonne et raisonne bien. Il a pleine conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ce qu'il vaut. Et ses idées, pour se répandre en fines parcelles à travers toute son œuvre, au lieu de se condenser en une seule masse, n'en sont pas moins nettes et transmissibles. Il n'est pas besoin de crier si fort pour se faire entendre.